Et pour poursuivre ces matinales à l'écoute de vos programmes, voici un rendez-vous consacré aux hommes de la Lino, un dossier plus que nous propose Christophe L'Apostole.
La démesure du chantier de la Lino à Dijon, la liaison intercommunale Nord-Ouest, fait parfois oublier le côté humain de sa réalisation. C'est pourtant ce qui intéressait le journaliste et ancien grand reporter de France 3, Jacques Revon. Il a passé 4 ans et demi à immortaliser les hommes et les femmes qui ont travaillé ou qui travaillent encore sur cet ouvrage qui devrait être achevé fin 2013. 4 ans et demi de travail et au final un livre, Le quotidien des bâtisseurs ou l'histoire humaine d'une construction, paru depuis peu aux éditions de l'Harmattan. Jacques Revon est donc en retraite depuis 2008, mais il n'a donc jamais pu lâcher totalement le métier, puisque très vite il s'est lancé ce défi, immortaliser les hommes qui font la Lino, un défi qu'il nous raconte avec passion et émotion. Écoutons-le.
Disons que lorsque je suis parti, comme vous dites, à la retraite en début juin 2008, j'avais de toute façon dans ma tête de rester journaliste. D'ailleurs, je suis toujours journaliste, j'ai toujours ma carte de presse. Avec, dans ce métier-là, on peut être journaliste jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui m'a permis et ce qui me permet de continuer à avoir une activité comme ça, entre parenthèses, de journaliste. Mais pour répondre précisément à votre question, je pars de la télévision, donc. Et pratiquement un mois et demi après d'en être parti, je recommence un projet. Alors le projet, il est tout simple. Au départ, je me dis, tiens, il va se passer des choses pas tellement loin de chez moi. Et comme j'avais 30 ans auparavant, j'avais déjà fait un travail photographique sur les mineurs de fond de la Loire, donc le charbon. Je voulais parler des hommes qui étaient dans le fond. J'avais rencontré à cette époque-là des hommes extraordinaires, très solidaires. 30 ans plus tard, donc, se présente cette opportunité de cette fois-ci voir des gens en surface qui sont aussi des hommes des travaux publics et particulièrement aussi des mineurs. Pour ceux qui construisent les tunnels, ce sont des mineurs aussi. Et je me dis, tiens, pourquoi pas ne pas s'approcher d'eux pour essayer de connaître un peu leur métier et les mettre en lumière, parce que c'est des gens dont on ne parle jamais. Ce sont des gens qui sont complètement dans l'obscurité. Et là, ensuite, eh ben, ça a été simple. Une fois qu'on a un projet dans la tête, et après, il faut le mettre en forme. Je suis allé rencontrer, j'ai rencontré des personnes qui étaient responsables, le maître d'ouvrage de ce chantier, qui est l'État. Donc j'ai rencontré la DREAL et j'ai proposé mon projet avec mon livre de mineur sous mon bras. C'est une forme de sésame. Donc l'humain, c'était l'humain qui m'intéressait. C'était pas le chantier d'Alino, c'était l'humain, les hommes et les femmes qui construisent, qui travaillent dans les TP et qui, dans ce cas-là, étaient sur un chantier qui allait démarrer. Donc on m'a dit, mais oui, pourquoi pas. J'étais un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à une réponse positive. Et on m'a dit aussi, déjà à l'époque, on m'a dit, mais ça n'a jamais été fait, ça. Effectivement, on voit toujours les constructions, les ponts, mais on ne voit jamais les gens. Donc, cette approche, visiblement, avait été comprise au départ. Et après, quand je suis allé sur le terrain, ben, je me suis présenté avec toujours mon petit bouquin sous mon bras, des mineurs, et leur dire, ben voilà, et là, alors après, les mois vont passer, les années. Hein.
On se fait accepter facilement quand on arrive avec un appareil sur un tel type de chantier. On a un petit peu l'œil extérieur qui vient regarder ce qu'ils font. Comment on fait ?
Justement, moi, les choses ont été claires au départ. J'ai dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est avoir la liberté de montrer votre travail, de vous montrer au travail. Un point, c'est tout. C'est-à-dire, moi, dans mon idée, c'était ça. Alors, le faire accepter ou se faire accepter, c'était déjà, quand on arrive, laisser son appareil dans son sac, regarder les personnes comme elles travaillent, discuter avec elles, parler de son projet, puis parler aussi de leur projet à eux, comment ils vivent, etc. Chaque fois, ça a été pareil. Parce que comme ces entreprises se succédaient et qu'elles n'avaient pas de rapport entre elles constamment, donc il fallait chaque fois présenter le projet, chaque fois raconter qu'on avait envie de faire telle et telle chose. Et en fait, les choses se sont passées simplement. Ils m'ont regardé faire, ils m'ont écouté parler, je les ai écoutés parler. Et surtout, le matin, quand j'arrivais, ben, je disais bonjour, serrer la main à tout le monde, parce que ça, dans ces métiers-là, c'est très important. Discuter avant de faire quoi que ce soit, vivre avec eux, être à leur contact, les écouter, faire attention à ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire que j'ai vécu un peu comme eux, avec, comme on dit, le casque sur la tête, les chaussures de sécurité, le baudrier, etc., etc., comme eux. Et puis après, ben, quand c'était le moment, quand je le sentais, ben, je sortais mon appareil photo de mon sac et je faisais mes photos.
On parle de solidarité, d'entraide. Sur le terrain, c'est des choses que vous avez constatées. Comment ça se passe, en fait, ce côté entraide, attention à l'autre?
C'est tout de suite qu'on s'en rend compte. Tout de suite, dès qu'on met les pieds sur un chantier, on ne peut pas penser autrement qu'en équipe. Et vous voyez des hommes et des femmes qui sont en équipe. Vous voyez pas un tel dans un coin tout seul en train de faire son truc, ça n'existe pas. Bien sûr, ils ont des rôles, mais l'équipe est toujours là. On ne peut pas, dans les travaux publics, personne ne peut travailler seul. On travaille en équipe. Et vu l'importance du travail dans tous les domaines, que ce soit technique, que ce soit dans le transport, dans la logistique, etc., c'est toujours en équipe. Et seul, on ne fait rien dans ces métiers-là.
Résultat, quand il y a un drame, c'est toute une communauté qui est touchée.
Ah oui, ça c'est clair que dans ces cas-là, malheureusement, c'est tout le monde. Mais tout le monde avec un M majuscule. Aussi bien du plus bas échelon dans les professions qu'au plus haut niveau de la profession.
Et ça vous l'avez vu avec la disparition, on va donner son prénom, de Nelson.
Oui, tout à fait. J'ai bien sûr vu et senti et vécu le moment de la disparition de ce monsieur. Je dis ce monsieur parce que pour moi c'est un grand monsieur, c'était un chef de chantier qui avait une présence très forte. On sentait que c'était un homme très solide, vraiment à l'écoute de ses collègues. En plus c'était un beau mec, quelqu'un de costaud physiquement, présent, très présent. Et il me parlait à moi aussi parce qu'il était intéressé par la photo. Donc c'est vrai qu'il me posait des questions, puis il me demandait si ça allait, etc. Bon, quand quelqu'un comme ça vous parle et fait attention à vous, ça veut dire qu'il fait attention aux autres, il fait attention à tout le monde. Et ce jour-là, après cet accident mortel, quand il est parti, eh bien, tous ses collègues ont été profondément touchés. Ça a duré pendant plus d'un mois. Le chantier s'est arrêté pour multiples raisons qu'on peut imaginer, des problèmes de sécurité, d'enquête, etc. Après, on sent qu'il y a toujours une solidarité. Encore aujourd'hui, sa photo est dans le chantier, et sur le chantier. On la voit un peu partout, son portrait avec son prénom Nelson dessous, un prénom qui a été construit par les compagnons eux-mêmes en disposant les camions et les machines de l'entreprise pour faire son prénom, Nelson. Et moi, j'ai fait cette photo en avion après de son prénom parce que ça m'avait été demandé par les compagnons. Ça, c'est très important, accepté par l'entreprise aussi, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, bah, son portrait est sur le chantier du tunnel, avec son visage et son prénom marqué Nelson, avec cette photo et ce portrait que j'avais fait moi-même, d'ailleurs, pendant un exercice.
Un mot du travail du journaliste, du photographe. Au début, vous étiez parti avec, je crois, le noir et blanc et la couleur. Et finalement, vous avez pris la couleur. Pourquoi la couleur ?
Parce qu'elle s'imposait d'elle-même au bout d'un mois et demi d'observation. J'avais mes deux boîtiers. J'avais un boîtier Leica en noir et blanc, en film argentique. Et puis j'avais un boîtier Nikon en numérique. Et je faisais les photos tantôt l'un, tantôt l'autre. Puis je me suis rendu compte très très vite que en noir et blanc, ça ne sera pas du tout comme ce que j'avais observé quand j'étais dans le fond de la mine, où c'est noir et blanc. Dans le fond, c'est noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, ou presque pas. Donc là, j'avais des couleurs de partout, des casques de toutes les couleurs, des baudriers de toutes les couleurs, des objets de toutes les couleurs, des machines de toutes les couleurs. Et j'ai tout de suite compris que ben, c'était la couleur qui s'imposait, parce que la couleur, elle a aussi une codification dans ces métiers. Et une codification propre à l'entreprise, propre à la sécurité. Et tout ça, il ne fallait pas surtout passer à côté. Donc pour moi, la couleur s'imposait. J'ai donc laissé mon boîtier Leica dans sa boîte. Et j'ai continué à faire mes photos avec mes boîtiers numériques couleur.
Ce qui donne un relief très particulier à ce livre, sorti quand même dans une grande maison d'édition, l'Harmattan. L'Alino, comme ça, peut intéresser un éditeur de cette taille ?
C'est pas l'Alino qui a intéressé l'éditeur, c'est les hommes et les femmes. L'Alino, c'est pas une fin en soi. L'Alino, c'est un chantier parmi tant d'autres. Parce que cet ouvrage, comme il est diffusé sur le plan national, il va intéresser, bien entendu, ces métiers-là, ces gens-là. Et puis ceux qui veulent connaître ces personnes qui sont toujours dans l'ombre. Et en fait, ce qui intéressait l'Harmattan, c'était mon approche de ce monde-là, qu'on ne connaît pas. Quand vous circulez sur une autoroute, quand on est tous pareils sur une route, on ne s'intéresse pas, on ne sait pas comment ça a été construit. Puis à la limite, ce n'est pas notre problème. Cet ouvrage, je souhaite qu'il soit utile pour les générations, parce que j'aborde les problèmes de transmission des savoirs entre les tuteurs et les jeunes qui arrivent sur le terrain. Parce que les TP, c'est encore un monde où il y a un ascenseur social. Puis parce que aussi, montrer au grand public qu'aujourd'hui, les TP, c'est non seulement des grandes machines, mais c'est aussi encore des hommes. C'est encore un métier d'homme et de femme. C'est ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage.
Pour voir le chantier de l'Alino autrement et découvrir le côté humain d'un chantier titanesque, ce livre, Le quotidien des bâtisseurs ou l'histoire humaine d'une construction, le livre vient de sortir aux éditions L'Harmattan. Il est signé Jacques Revin.
Et cet entretien que vous venez de suivre à l'écoute de vos programmes sur RCF vous a été proposé par Christophe Lapostole. Vos matinales se poursuivent à l'écoute de vos programmes. Très belle journée à toutes et à tous.